Je vais vous partager une prédication qui n'est pas ma prédication, mais qui est la prédication de l'apôtre Paul. Et ce texte que je vais partager ce matin, j'ai donné un titre, c'est comment vivre ensemble en attendant son retour. Si vous êtes concerné par le vivre ensemble, mais en tout cas, l'apôtre Paul l'était, et il en parle beaucoup d'ailleurs, et je pense quand même que chacun d'entre nous, certainement, se sent concerné par notre vivre ensemble, dans l'attente de cette espérance que Jésus un jour viendra et reviendra. Enfin, l'enfant de Dieu que je suis, ça fait partie de ma vie. Je ne sais pas si le Seigneur reviendra alors que je serai encore vivant ou si le Seigneur reviendra alors que je serai déjà dans la tombe, mais peu importe. Mais mon assurance et mon espérance, enfin ma vie, elle tourne autour du fait que Jésus viendra me rechercher. Et ça, c'est un des thèmes que l'apôtre Paul va partager plusieurs fois d'ailleurs, mais pour l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus lui-même n'en parle, mais en tout cas, l'apôtre Paul va le partager aux Thessaloniciens, et le texte que je vous lis ce matin, sur lequel on va regarder, on va voir un petit peu ce qui est dit justement de notre vivre ensemble, Paul en parle aux Thessaloniciens dans le 1 Thessaloniciens chapitre 4 et 5. Alors, je ne vais pas tout vous lire, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, pour le contexte, Paul va parler. Les exégètes ceux qui étudient tout le contexte, l'historicité de la parole de Dieu, pensent que la lettre aux Thessaloniciens, c'est la première lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens. Mais cette lettre que Paul a écrite à l'Église primitive naissante, elle s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Alors, Paul va partager justement sur le fait, pour prendre un petit peu le contexte, il va partager sur le fait que, effectivement, comme je vous le disais à l'instant, Christ revient. Et d'ailleurs, ce serait une folie absolue, je pense, c'est moi qui le dis. Mais je ne pense pas me tromper en disant ça, que si l'enfant de Dieu que je suis ne prend pas en considération le fait que Jésus va revenir, ma foi ne sert à rien. Jésus est celui qui va revenir. Et en disant ça, en fait, je suis en train de dire aussi en même temps que si moi, l'enfant de Dieu que je suis, est en train de vivre comme si Jésus ne reviendrait pas un jour me chercher, pardonnez-moi de dire ça comme ça, mais je serais un fou absolu. Je suis donc en train de vous dire que le chrétien que je suis vit avec cette espérance et dans l'attente que Jésus va un jour revenir chercher les siens. D'ailleurs, je vous ai partagé ces derniers temps sur cette notion de ce qui fait la joie de la future épouse. Et donc, nous sommes la future épouse. Et donc ça, c'est dans ce que je vais vous partager ce matin, le contexte est là. L'apôtre Paul va partager sur ce contexte-là. Et donc, dans 1 Thessaloniciens, je vous dis, c'est le contexte, chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, mais je vais vous partager à partir de 1 Thessaloniciens 5, et on va lire ensemble plusieurs versets que je vais commenter au fur et à mesure ne pas être trop long. Parce que vous savez, c'est ma spécialité. Mais alors, je vais essayer de me discipliner. Oui. Alors, donc, d'ailleurs, j'ai repris les titres qui étaient donnés dans la version que j'ai lue et que je vais vous lire. La version parole de Dieu, parole vivante, je ne suis jamais. Mais enfin, bref, c'est une de ces deux versions-là. Dans le titre qui est donné, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 au verset 11, ce titre qui est marqué dans ma Bible, c'est « Soyez prêts ». Mais voilà, encore une fois, je répète, hein, ça c'est ma pensée, mais je pense qu'elle est juste. C'est que si je ne suis pas celui qui se prépare ou qui se tient prêt, eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, ce serait une folie pour moi, en tout cas. Pour moi, Jean-Bernard, mais je pense aussi, enfin, je vous dis carrément, fou de ma pensée, c'est que ce serait une folie quand même pour chacun de nous qui sommes enfants de Dieu. Voilà. Dans ce que je vais vous partager ce matin, donc, il me fait cette notion d'être prêt, et puis se préparer, soyons prêts, et puis le fait qu'on se prépare, eh bien, ça a des incidences dans notre vie. Et c'est là où l'apôtre Paul va enseigner un certain nombre de choses. On va voir ce matin, mais dans le fait qu'il va développer trois points dans les éléments qu'on va lire. Après, par la suite, le premier point, mais je vous le dis tout de suite, mais on peut les détailler un petit peu, c'est Paul va dire qu'on doit respecter. Alors, dans ma préparation au retour de Jésus, un des éléments, c'est ce que l'apôtre Paul dit, hein. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, c'est la prédication de l'apôtre Paul, eh bien, c'est respecter les serviteurs de Dieu. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était d'avertir, de reprendre et d'encourager. On pourrait aussi dire, ça, c'est déjà trois points. Mais comme je disais, j'ai pas de nom ce matin. Et puis après, il va nous parler de notre attitude. Donc, l'attitude, ça concerne notre façon de vivre, notre façon les points sur lesquels on doit prendre de l'attention. Et dans cette notion de bonne attitude, il va nous donner 6 déclinaisons, on va les voir. Donc, le premier élément, c'est dans cette notion d'être prêt, de justement prendre en considération le fait que Jésus va vraiment revenir. Bien sûr, on le sait. Mais voilà ce que dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Quant à l'époque ou au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, d'instructions écrites supplémentaires. Vous savez fort bien que le grand jour du Seigneur doit venir d'une façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur dans la nuit. Et lorsque les hommes se diront maintenant, règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité, alors précisément, subite et imprévue, la catastrophe fondra sur eux. Il en sera comme d'une femme enceinte surprise par les douleurs et aucun n'échappera. Je vais juste m'arrêter là pour relever quelques points simplement dans cette lecture. Déjà, premièrement, ce qu'il dit Paul ici, c'est que la venue du Seigneur, quand Jésus reviendra, eh bien, ce sera d'une façon soudaine, c'est-à-dire d'une façon inattendue. On ne peut pas savoir, on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Et d'ailleurs, c'est ce qui doit nous faire en sorte qu'on se tienne prêt et qu'on doit se préparer. On doit être prêt. Alors, ça, c'est un élément, on dirait, le journal qui ne nous donne pas un secret, on sait tout ça. Bien sûr, je sais, on sait. Mais je veux attirer votre attention sur quelque chose ici. Parce que Paul va dire, donc encore une fois, je répète que Dieu, enfin le retour de Jésus, personne ne le prévoit, enfin ne le sait. Quand, mais Jésus, même dans son humanité, il va dire moi-même, seul le Père le sait. Moi, je ne sais pas. Alors je pense qu'il disait ça dans son humanité, effectivement. Mais ici, Paul va dire deux choses, enfin il va dire donc, ce qu'on vient de dire, et puis il va dire que, encore une fois, c'est. Ce qui va arriver, ce sera de façon subie, imprévue, et il va donner une notion ici, il va dire, voilà, ce sera une catastrophe. Alors, une catastrophe pour ceux qui ne seront pas enlevés avec le Seigneur. Ça, c'est... Parce que, Paul ici, il va dire, une catastrophe qui va fondre sur eux. Moi, ça attire quand même mon attention, parce que si je fais partie de ceux, même je peux être chrétien, je peux me dire chrétien, mais je répète, si le chrétien que je suis ne vit pas sa vie dans la préparation au retour de Jésus, eh bien, le risque, c'est qu'une catastrophe fonde sur chacun de ceux qui ne sont pas dans ce temps de préparation. Et puis, au verset 4, il va dire ceci. Mais vous, mes frères, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Le jour du Seigneur ne saurait donc vous surprendre comme un voleur. Ah, là, il y a quelque chose d'intéressant. Mais, pour comprendre ce que Paul dit ici, il me semble qu'il faut qu'on lise la suite. Et Paul va dire ici, « Car vous êtes tous fils de la lumière, enfants du jour. Vous êtes de ceux qui n'appartenaient plus ni à la nuit ni aux ténèbres. Alors, n'ayons donc rien à faire avec elle. Le jour du Seigneur ne saurait donc vous surprendre comme un voleur à vous qui êtes enfants de Dieu. » Il semblerait, parce que je vous rappelle une chose, hein, ce que Paul écrit ici, il est en train d'écrire à l'église de Thessalonique. Enfin, il est en train d'écrire à des chrétiens. Donc, les versets précédents, Paul ne les dit pas au monde, en quelque sorte. Il les dit enfin, à l'église de Thessalonique. Et quand il dit que le jour du Seigneur va venir d'une façon aussi soudaine, inattendue qu'un voleur dans la nuit, il est en train de le dire à des chrétiens. Ça laisse supposer que certains des chrétiens se laisseront surprendre. Mais ceux qui ne se laisseront pas surprendre, ce que dit Paul ici, il dit, c'est ceux qui n'appartiennent pas ni à la nuit ni aux ténèbres. C'est ceux qui n'ont rien à faire avec les ténèbres, avec toutes les déviances qu'il y a dans notre société aujourd'hui, pour dire les choses peut-être clairement. Il veut dire aussi autre chose, mais voilà, j'attire votre attention quand même sur ce point-là. Parce que, il faut qu'on prenne conscience que, quand tout à l'heure, je disais, on va parler de notre, Paul va nous parler de notre vivre ensemble. Eh bien, dans le vivre ensemble, eh bien, c'est ce qui va faire la différence entre aussi ceux, finalement, qui sont, finalement, malgré qu'ils se disent chrétiens, chrétiens, je ne sais pas comment on peut dire, mais ils vivent encore dans les ténèbres. Et ils seront ceux-là, et bien ils seront surpris. C'est là qu'ils seront doctrinés en réalité. Et c'est à cela que la catastrophe arrivera. Et Paul va dire au verset 6, et là aussi, ça me semble important de souligner, il va dire, donc, ne nous laissons pas gagner par le sommeil qui plonge le reste des hommes dans l'inconscience. Mais restons vigilants, sobres et conscients. Qu'est-ce que Paul veut dire quand il nous dit de ne pas se laisser gagner par le sommeil? De quel sommeil parle-t-il ici? Je pense que vous avez certainement une idée de ce sommeil. Et Paul va le dire d'une façon différente d'ailleurs, mais dans la même pensée aux Éphésiens. Chapitre 5, verset 14. Paul va dire, avec toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts. Mais c'est la même notion. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Paul est en train de dire? C'est quoi le sommeil? Il nous parle, bien sûr, du sommeil dans notre dimension spirituelle, dans notre relation avec le Seigneur. C'est ça, ce que Paul dit ici, c'est que tu peux être chrétien et tu peux être un chrétien qui s'est endormi, qui est tombé dans le sommeil. C'est-à-dire, tu peux être quelqu'un, comment je pourrais dire ça, quelqu'un, tu vis, par exemple, tu vas lire ta vie, tu vas lire les évangiles, c'est juste comme un livre comme un autre, pourquoi? Ça ne change rien dans ta vie. Le Saint-Esprit va vouloir te parler par la parole, par exemple, mais pas seulement, Saint-Esprit, non, pas seulement d'ailleurs par la parole de Dieu, mais ça ne va rien changer dans ta vie. Le sommeil arrive. Tu t'endors tout doucement. Ce que Dieu veut de toi, ça prend de moins en moins d'importance. Et puis finalement, c'est la vie de tous les jours dans la société qui prend l'ampleur. Mais tu es en train de t'endormir dans ta foi. Et si on est dans ce cas-là, eh bien, Paul dit, mais ne te laisse pas gagner par le sommeil. Alors, réagis. Parce que si tu es dans cet état-là ou si tu es en train de partir dans cet état-là, eh bien, tu es de ceux et de celles, eh bien, qui tombent dans la conscience. Dans cette version, c'est ce qui est écrit. Alors, tu es peut-être conscient, tu es conscient dans ta vie de tous les jours, dans la société, mais tu deviens inconscient vis-à-vis des choses de Dieu. Tu deviens inconscient, comme je disais tout à l'heure, eh bien, le fait que Jésus va revenir chercher son épouse, eh bien, ça ne change rien pour toi. Ça, finalement, pour le dire autrement, eh bien, ça n'a pas d'importance. Et Paul va dire ici, ben, ne vous laissez pas gagner par le sommeil qui plonge le reste des hommes dans la conscience. Mais restons vigilants, sobres et conscients. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à faire. On doit agir et réagir. On doit s'attacher à chercher les choses de Dieu. Quand Paul nous parle d'être vigilant par rapport à quoi ? Vigilant, je pense que Paul veut attirer notre attention, il a attiré l'attention des Thessaloniciens à l'époque en disant faites attention à ce que votre centre d'intérêt, soyez vigilant sur votre centre d'intérêt. C'est quoi ? Qu'est-ce qui est la priorité de votre vie ? Alors restons vigilants, sobres, conscients. Et au verset 8, il va dire ceci, ce qui explique un peu. Mais nous autres, enfants du jour, vous savez, contrairement aux enfants de la nuit tout à l'heure, encore une fois, je vous répète bien, l'apôtre Paul est en train de parler à des chrétiens. Il est en train de parler à l'Église. C'est-à-dire que dans l'Église, encore une fois, il peut y avoir des enfants de la nuit. Parce qu'on tombe dans le sommeil. Parce qu'on est en train de s'endormir dans notre foi. Et Paul va dire, mais nous qui sommes enfants du jour, nous voulons rester sobres, alertes. Et là, il va donner des clés. Il va dire, revêtons notre armure. Bien. Si on a revêtu une armure, frères et sœurs, c'est que on a un combat derrière. Je veux dire, une armure, quand on met une armure, c'est qu'elle sert à quelque chose. Et dans l'armure qu'il va nous donner, il va dire ceci. Donc, revêtons notre armure, et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire que la foi et l'amour soient votre cuirasse. La cuirasse, c'est ce qui va nous protéger. C'est ce qui va arrêter les flèches de l'ennemi, par exemple. À l'époque, il n'y avait pas des armes à feu. Peut-être qu'aujourd'hui, il dirait différemment, mais voilà. Alors, la cuirasse, c'est notre foi, notre amour qui va nous protéger. Il y a aussi, il va aussi nous parler de l'assurance du salut. Est-ce que des fois, tu t'interroges en disant, mais est-ce que je suis sauvé ? Alors, peut-être que je suis en train de vous dire ça, bien que Jean-Bernard exagère quand même. On est dans des livres, on est chrétien, on sait qu'on est sauvé. Oui, bien sûr, moi je. Mais honnêtement, frères et sœurs, honnêtement, je vous dis que je pense que c'est juste devant Dieu, d'ouvrir notre cœur et de regarder ce qu'on est. Est-ce que, justement, je ne me suis pas endormi? Parce que, frères et sœurs, si on s'endort, parce que dit Paul ici, je ne sais pas comment vous pouvez l'interpréter, mais moi, ce que je comprends, c'est que si je m'endors, eh bien, une catastrophe va fondre sur moi. Si je m'endors spirituellement. Et, le salut est un don gratuit de Dieu. Mais un don, c'est quand quelqu'un nous donne quelque chose, donc Dieu nous donne le salut. Mais si je ne le prends pas, ce salut, ou si je le prends, puis à un moment donné, je le laisse de côté, je le rejette. Ce n'est pas que Dieu veut m'enlever mon salut, c'est que je n'en veux plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, on peut parler effectivement des vierges folles et des vierges sages. Frères et sœurs, il faut qu'on s'intéresse à notre salut. Il faut qu'on... Ce n'est pas qu'on peut... D'ailleurs, il y a un verset, alors je ne peux pas vous donner la référence parce que je ne l'ai pas là comme ça, mais il est, je crois que c'est l'apôtre Paul aussi, il me semble, qui va dire « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Travaillez à votre salut. Ne le laissez pas s'endormir. Enfin, voilà. Parce que ça pourrait être grave pour vous. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Alors, il dit, voilà, les armes que nous avons, les armes que nous, qui sommes des enfants du jour, nous qui sommes, qui nous tenons debout, alors, eh bien, que revêtons notre armure, la foi, l'amour, l'assurance du salut. Et puis, alors, il dit, la foi et l'amour sont notre cuirasse, et puis il va dire l'assurance du salut, l'espérance de la délivrance, eh bien, sont notre casque. Sont ce qui va protéger. Alors, le casque, c'est ce qui protège la tête. C'est ce qui va protéger, enfin, ce qui est dans notre cerveau, enfin, qui est notre intelligence, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut saisir, eh bien, l'assurance du salut et l'espérance de la délivrance. Et on revient encore une fois. L'espérance de notre délivrance, c'est quand Jésus viendra rechercher l'Église aussi. Parce que dans le contexte que Paul est en train de développer ici, il parle de ça. Alors, verset 9, il va dire, mais Dieu ne nous a pas destinés à encourir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est notre destinée. À nous qui sommes les enfants de la lumière, à nous qui ne nous sommes pas laissés endormir. Alors, il ne nous a pas destinés, de toute façon, à encourir sa colère, mais à posséder le salut par Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que nous vivions éternellement avec lui. Ça, c'est cette réalité-là. Est-ce que j'en veux de cette réalité-là? C'est pourquoi il faut vous réconforter, vous encourager mutuellement à progresser dans l'unité, comme vous le faites déjà. Moi, j'ai remarqué que pour Dieu, nos relations les uns avec les autres, et donc il y a d'ailleurs toute cette notion d'église derrière ça, c'est quelque chose qui est, je ne sais pas comment dire, mais c'est fondamental aux yeux de Dieu. Et ici, on a cet encouragement à progresser dans l'unité, dans notre vécu ensemble. Notre vécu ensemble fait partie de ce que Dieu est, et fait partie de notre vie dans le fond de Dieu. Alors justement, on va arriver à ce que Dieu nous parle, enfin ce que Paul va nous parler de la part de Dieu, dans comment vivre ensemble en attendant le Seigneur. Alors, je vous disais tout à l'heure, la première notion que Paul va donner ici dans le vivre ensemble, c'est le respect, je dirais, des uns des autres, mais aussi de façon particulière, le respect des serviteurs de Dieu. C'est pas moi qui le dis, je le crois, hein, mais c'est l'apôtre Paul attire ici notre attention. Et au verset 12, il va dire, nous vous prions, frères, de respecter et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur. C'est ça. Les serviteurs de Dieu, ce ne sont pas des vedettes. Vous savez, dans le monde, on adore les vedettes. On adore pas Dieu, on adore les vedettes. Les hommes de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu qui ont en eux, comment je vais dire ça, une part, je ne peux pas dire qu'on est en nous, enfin, quand je parle des serviteurs de Dieu, qu'ils ont en eux, dans un seul homme, toute la plénitude, enfin, du caractère de Jésus ou de Dieu. Mais en tout cas, ils ont en eux, alors je vais dire comme ça, ils ont en eux une part du caractère, des caractéristiques de ce que Jésus est, parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui a mis en eux, enfin, qui a donné le don de service, et ils l'ont accepté, bien sûr. Alors, une des caractéristiques du serviteur de Dieu, bien sûr, il y a l'amour, il y a l'humilité. Alors, pourquoi je dis ça? Je le dis volontairement, face à ce qui se passe dans notre société, parce que dans notre société, on élève les hommes Jusqu'à aller, comme je disais tout à l'heure, en fenêtre, vous voyez, les gens, ils sont bien fous, des fois, sur le moment entier. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il est notre peuple. Quand il tente de respecter et d'honorer les serviteurs de Dieu, ce n'est pas tant de respecter, d'honorer l'homme dans son humanité, mais de respecter et d'honorer l'homme dans sa fonction de serviteur de Dieu. Mais, enfin, vous savez, dans notre société, on est obligé de prendre en considération, de plus en plus, enfin, on méprise, je ne sais pas comment dire, mais on va mépriser l'autre. Et enfin, notre société aujourd'hui, elle nous pousse à ce que nous, on soit l'homme-dieu. Je veux dire, il faut que tous les regards soient tournés vers nous, hein, plutôt que tourner notre regard vers le. J'espère que tu arrives à me faire comprendre dans ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, Dieu nous dit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, que dans notre vivre ensemble en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, eh bien, il y a un point, c'est le premier point qu'il développe ici. Il veut dire, il y a cette notion de respect, d'honorer l'homme de Dieu, parce qu'il est. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de travailler pour la gloire de Dieu. Il lui dit ici, apprenez à les connaître, entourez d'égards et de témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels qui président vos réunions, vous guérissent dans la communion avec le Seigneur, ils vous montrent le bon chemin par leurs conseils, leurs exhortations et leurs avertissements. Et puis il va dire, estimez-les. Témoignez leur bénédiction particulière en raison de leur activité et de leur peine. Vivez dans la paix avec eux. Non, je suis un peu mal à l'aise de vous parler de ça parce que, ben, oui, bien sûr, je suis votre pasteur, je suis serviteur de Dieu, mais quand je vous dis ça, je suis en train de prêcher pour ma paroisse. Vous comprenez? Je crois que c'est juste. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec un serviteur de Dieu qui est en train de se tromper. C'est pas ça. Je ne pense pas que Paul peut dire ça, mais en tout cas, il attire l'attention là-dessus. Il dit que c'est un des éléments de notre vivre ensemble en attendant le retour de Seigneur. Et si Paul le met en avant, eh bien, c'est que ça a une importance. Respecter, honorer, estimer, donner une affection particulière à ceux qui sont au service du Seigneur. Pas seulement celui qui est le pasteur de l'Église, mais tous ceux qui sont au service du Seigneur. Et vous direz, quelque part, on est tous au service du Seigneur aussi. Donc, on a tous à s'honorer les uns les autres. On a tous à reconnaître en l'autre le don que Dieu a mis. Alors, des fois, oui, quand on parle d'honorer la fonction, par exemple, des fois, alors, je peux vous parler de mon cas, mais des fois, pour moi, c'est quelquefois difficile de prendre des décisions parce que, en tant qu'homme, j'aimerais que tout le monde soit satisfait, par exemple. C'est impossible, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Là, on se met devant Dieu en tant que serviteur de Dieu. Comment je dois faire les choses, Seigneur? Comment je dois dire les choses? Alors, on sait que quand on dit les choses, quand on fait les choses, eh bien, on ne va pas plaire à l'humanité de tout le monde. Mais, il faut le faire. Et ce que Dieu nous demande en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, c'est, encore une fois, je répète, de respecter, d'honorer, d'estimer et de vivre en paix. Avec, même quelquefois, quand il y a des décisions qui nous dérangent, ou quand des choses qui viennent nous bousculer. Vous savez, des fois même, le serviteur de Dieu, eh bien, quand il va prêcher, par exemple, il va vous. Parce qu'il est aussi inspiré par le Saint-Esprit, il va nous dire des choses qui vont nous embêter. Parce que ça va titiller, peut-être Dieu est en train de mettre le poids sur quelque chose. J'ai besoin d'entendre. Vivez en paix avec eux. Vivez en paix avec eux. Voilà ce que dit. Parce que dans les églises, on le voit aussi l'épître de l'apôtre Paul, eh bien, les églises, ben, c'est fait d'hommes et de femmes humains, humaines. Et dans notre humanité, on n'est pas toujours on n'est pas toujours conforme à ce que Dieu attend de nous. Et l'apôtre Paul va attirer l'attention sur le fait que des fois, ben, il y a des disputes, il y a des divisions et tout ça, mais ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est dans nos cœurs de vouloir la paix. Et particulièrement vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Donc ça, c'était le premier point. Donc, parce que ça va parler trop. Alors, deuxième point, c'est avertir, reprendre, encourager. Nous vous engageons, frères, à avertir ceux qui vivent sans discipline et refusent de se plier au bon ordre dans votre assemblée. Reprenez les oisifs, les paresseux, relevez les découragés, encouragez les timides, réconfortez les craintifs, soutenez les faibles, soyez très patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Soyez bons les uns envers les autres. Ayez sans cesse en vue le bien des autres, qu'il s'agisse de vos frères ou de tout le monde. Voilà. Là, c'est toute une prédication.
C'est une liste du rêve, pasteur.
Ah oui. Mais je dirais que c'est, si je peux rebondir sur ta remarque, je dirais que c'est le rêve de Dieu. Hein? Et mais regardez ici, parce que, voilà, Paul va dire, il va employer un certain nombre de termes, je ne les ai pas comptés, mais en tout cas, bon, il y a cette notion d'avertir et de reprendre. Mais, alors, avertir, reprendre, deux verbes. Et puis, après, il va parler de relever les découragés, d'encourager, alors relever les découragés, d'encourager les timides, de réconforter les craintifs, de soutenir les faibles, d'être patient. Il y a cinq termes positifs. Alors oui, c'est vrai, quand on parle d'avertir, ceux qui vivent sans discipline, ça existe dans l'Église aussi. Ça ne devrait pas, mais ça existe. Alors, ben, dans ce cas-là, il faut avertir. Alors, avertir, ça veut dire qu'il faut prendre une martinet et puis frapper. Hein. C'est avertir avec amour, mais il faut avertir. Avertir, ça ne fait pas toujours plaisir non plus, c'est vrai. Mais en tout cas, Dieu ne veut pas, et ça j'en suis convaincu, que dans l'Église, on vive façon discipline. C'est pas possible, je l'ai dit clairement. Avertir ceux qui vivent sans discipline et qui refusent de se plier à l'ordre établi dans l'Église. Avertir, pourquoi avertir? Ben, avertir pour qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent recevoir, qu'ils puissent entrer dans ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alors, avertir ceux qui vivent sans discipline. Reprenez les oisifs et les paresseux. Vous savez quoi? Normalement, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de chômage. Société, il y en a beaucoup aujourd'hui avec le coronavirus, et puis on s'attend à ce que dans les mois qui viennent, ce soit assez terrible. Et d'ailleurs, je prie pour ça aussi. Seigneur, bénisse notre pays. Mais pour revenir à ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, eh bien, ouais. Dans l'Église, on est tous concernés par l'œuvre de Dieu. Et comment je vais vous dire ça? Si on regarde dans les statistiques, parce que les statistiques, c'est vrai, on dit souvent, avec les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, mais il y a quand même aussi des choses qui sont vraies dans les statistiques. Et vous savez quoi, dans les Églises, donc je suis président d'une fédération d'Églises, j'ai quelques notions. Il y a enfin, la part de ceux qui œuvrent dans l'Église et de ceux qui restent en étant que bénéficiaires de tout ce qui se fait, eh bien, alors je n'ai pas de pourcentage, mais en tout cas, les actifs dans l'Église, on va dire, c'est plutôt un pourcentage petit par rapport à ceux qui ne font que recevoir. Enfin, c'est sûr, dans l'Église, on a tous notre part. Peut-être que tu dis, mais moi, je ne sais rien faire, je ne peux rien faire. Mais si, on a tous notre part à faire, tous. Et Paul va dire ici, ben, reprenez les oisifs et les paresseux. Encore une fois, je ne pense pas que Paul est en train de dire qu'il faut taper dessus, mais plutôt dans le sens de les reprendre, pour les encourager, pour leur faire comprendre qu'ils ont vraiment leur part dans l'Église, qu'ils sont importants. Et quand on prend, quand l'apôtre Paul va définir, il va dire, vous savez, avec cette notion de corps, de celui qui a un œil, enfin un pied, une main, une oreille, on est tous, bien sûr, on a des fonctions différentes. On a une responsabilité différente dans l'Église, peu importe. Ce qui importe, c'est ce qu'on est appelé à faire et on doit faire. Je pense vraiment. Je pense que dans l'Église, enfin, on doit tous être au bénéfice les uns des autres. D'ailleurs, il veut le redire un petit peu après. Et c'est tous, on est tous, voilà, on a tous quelque chose à faire. Et donc, après, il va dire, relevez les découragés. Quelquefois, on peut être découragé pour des tas de raisons. Alors, justement, quand on est des frères et des sœurs pour s'encourager. Mais c'est ce qui fait ce qui est la notion d'église, qui est la notion de vivre ensemble. C'est en l'autre a de l'importance pour moi. Si mon frère ne compte pas pour moi, c'est pas grave qu'il est dans une difficulté, bah, tant pis pour lui. Ou ma sœur, bah, non, on n'est pas l'église dans ce cas-là. Relever les découragés, encourager les timides, réconforter les craintifs, soutenir les faibles, soyez très patients avec tous. Ah ouais, ça, on pourrait s'arrêter un instant là-dessus. Soyez très patients avec tous. On voudrait tellement que ça aille plus vite dans la vie de l'un ou de l'autre. On dit, mais Seigneur, pourquoi tu fais rien? Mais si, le Seigneur est en train de faire quelque chose en réalité. Mais enfin, on voit la grandeur de l'amour de Dieu qui nous laisse, qui nous laisse, non, c'est pas, il ne nous laisse pas comme ça. Il cherche à nous faire progresser. Dieu est intéressé par l'enfant de Dieu pour ça. Il ne veut pas qu'on tombe dans le sommeil, mais il veut qu'on soit des enfants de Dieu réveillés, qui sont en train de progresser, qui sont en train de grandir, qui sont en train de porter en eux justement le caractère de Dieu. Alors, au verset 15, et puis finalement, je pense que j'arrêterai là, donc le troisième point que je disais que j'avais développé, la bonne attitude, eh bien, on verra ça plus tard, on verra ça dimanche prochain, parce que je vois qu'il est déjà 11 heures, là. Donc, je vais arrêter sur ce dernier verset, le verset 15. Parce que ce verset 15 a aussi une importance considérable. Paul va dire, je répète encore une fois, il est en train de parler à une église. Il est en train de parler à l'église de Thessalonique, et je dirais, il est en train de parler à l'église de Brouhé aujourd'hui, ce matin, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est sa prédication. Alors, il nous met en garde là. Il dit, prenez garde qu'au milieu de vous, personne ne rende le mal pour le mal. Alors, à Brouhé, ça ne se fait jamais, n'est-ce pas? Enfin, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Ça, c'est ça. Je pense que là, il faudrait qu'on regarde en nous-mêmes, quand même, hein, les uns les autres. Enfin, je veux dire, il faut que Jean-Bernard, tu regardes en toi-même, parce que dans ma nature, je pense que la vôtre, c'est comme ça, quand on me fait du mal, eh bien, ma première réaction, moi, c'est bien souvent pas ça que Dieu attend de moi. Et pourtant, c'est ce qui fait toute la différence. Quand je suis celui qui, par l'œuvre du Saint-Esprit en moi, ne rend pas le mal pour le mal, mais je suis tellement en train de glorifier Dieu. Et je suis tellement en train d'être celui qui est véritablement l'enfant de Dieu, celui qui est vraiment dans ce temps de préparation à rencontrer et à être enlevé par le Seigneur lors de son retour. Donc, personne ne rend le mal pour le mal. Mais par contre, soyez bons les uns envers les autres. Est-ce que nous sommes ceux et celles qui vivons cet état de fait dans notre vie d'église, dans notre vie de... D'ailleurs, ça dépasse même le cadre de l'église, enfin, je pense, c'est dans notre vie de tous les jours. Non, je relis ce verset parce que je me suis arrêté en cours de route, hein. Je reprends, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, soyez bons les uns envers les autres, et puis, pas plus loin, encore. Il dit, ayez sans cesse en vue le bien des autres. Ayez sans cesse en vue le bien des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça rejoint ce que Jésus nous enseigne, en fait. Hein. Parce que, par exemple, Jésus, quand il va dire « bénissez vos ennemis ». En général, nos ennemis, c'est ceux qui nous font du mal. Et je sais, je veux dire, dans notre nature, soit on réagit au mal par le mal, souvent c'est ça notre nature, ou alors on fait un effort surhumain, je veux dire ça comme ça, et puis on ne va pas rendre le mal pour le mal, on n'en pense pas moins, mais voilà, on va le laisser comme ça. Quoi. Mais l'enfant de Dieu fait plus que ça. L'enfant de Dieu va plus loin que ça. Celui qui est en train de se préparer pour être enlevé lors du retour de Jésus va plus loin que ça, parce qu'il est dit ici, on doit, mais c'est ça quand je lis ce verset, ayez sans cesse en vue le bien des autres, et je me dis, mais ça c'est Dieu quoi. Est-ce qu'on est conscient que Dieu veut vraiment le meilleur pour chacun de nous? Est-ce que dans ce que je suis, dans comment je vis, est-ce que quelquefois je ne suis pas l'ennemi de Dieu? Et pourtant Dieu veut le meilleur pour moi. Et il fait tout pour que je sois dans le meilleur. Alors, ayez sans cesse en vue le bien des autres. Ça devrait être une ligne de conduite dans notre vivre ensemble. Le bien de l'autre, ce qui lui fait du bien, ce qui est bon pour lui. Alors, frères et sœurs, bien sûr que quelquefois, ce que nous on considère bien, eh bien, c'est peut-être pas forcément bien aux yeux de Dieu. Ça, c'est autre chose. En tout cas, avec l'aide du Saint-Esprit, je dois demander à Dieu de mettre en moi un comportement qui bénisse l'autre, même si l'autre, à un moment donné, eh bien, il devient mon ennemi, pour une raison ou pour une autre. Et il est sans cesse en vue le bien des autres. Et Paul va terminer ce verset en disant deux choses. Alors, frères et sœurs, oui, on est dans l'Église, et puis on comprend que dans l'Église, eh bien, parce qu'on est des enfants de Dieu, eh bien, on doit avoir en vue sans cesse le bien des autres. Oui, dans l'Église, on est seul, je comprends. Et Paul va encore plus loin. Non, mais arrête, Seigneur. Si il va plus loin. Il dit qu'il s'agisse de vos frères, donc ça on est dans l'Église, hein, d'accord, mais aussi de tout le monde. Alors peut-être que vous voulez supprimer quelque chose, mais non, ne le faites pas. Ayez en vue le bien des autres, soyez bons les uns pour les autres, ayez sans cesse en vue le bien des autres. Qu'il s'agisse de vos frères et de tout le monde. Alors que le Seigneur vous aide, frères et sœurs, dans notre vivre ensemble. Ça, c'est l'Église, frères et sœurs. L'Église, c'est l'Église qui est ce corps rempli des enfants de Dieu qui ne se sont pas endormis ou qui ne sont pas en train de s'endormir. En tout cas, si on est en train de s'endormir, ben, il faut qu'on se réveille. Et puis, il faut qu'on rentre dans cette dimension-là. Dans ce vécu ensemble. Alors, je vais arrêter là ce matin, parce que, après, dans la suite, dans les versets de 16 à 25, Paul va nous définir une série de déclinaisons de notre bonne attitude, mais je vous parlerai de ça dimanche prochain. Mais, Seigneur, aide-nous à vivre l'Église, à vivre ensemble, dans l'attente de ton retour. touche mon cœur, touche mon vie, Seigneur. Alors voilà, je vais, je sais pas si tu peux nous conduire dans un dernier chant, mais en tout cas, on va se lever, si vous voulez bien. Et on va prier. Seigneur, touche-nous par ton esprit. Qui d'autre que toi, Seigneur, on va le faire d'une façon efficace. Seigneur, vraiment, on ne veut pas être de ceux qui sont sur la pente en train de s'endormir. Mais Seigneur, si dans notre communauté, Seigneur, il y a des certains qui sont sur cette pente-là, alors Seigneur, je te prie, Seigneur, de venir à leur secours, de les aider. Je te prie, Père, de m'aider, Seigneur, à me réveiller jour après jour davantage, c'est-à-dire à chercher chaque jour ta face. Seigneur, pour vivre ce que toi, Seigneur, tu vois comme étant la vraie vie. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous conduit dans cette dimension-là. Seigneur, tu es un Dieu qui est le Dieu de notre salut. Tu es ce Dieu qui est tellement rempli d'amour, qui est tellement rempli de grâce pour chacun de nous. Seigneur, merci. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs dans notre communauté. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous de ton désir, de ta propre volonté, Seigneur. De ta propre vision, de ton propre regard. Seigneur, viens le mettre en chacun de nous. Viens le déposer, viens l'écrire dans nos cœurs. C'est ma prière ce matin pour l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen.